projection privée.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Cédric Kahn pour la sortie de son film « Vie sauvage » avec Mathieu Kassovitz et Céline Salette qui est sur les écrans depuis mercredi dernier. Cédric Kahn, ce film est votre 9e, c'est-à-dire qu'en 22 ans, c'est une bonne moyenne, 2 ans et demi à peu près par film. Vous avez fait en général les films, totalement les films que vous aviez envie de faire, ce qui est déjà important pour vous et pour nous. Et Vie sauvage, c'est un film qui se raccorde avec un de vos films les plus réussis, et il fait partie d'ailleurs de vos films les plus réussis, c'est Roberto Succo, car tous deux sont tirés d'un fait divers. Alors, déjà, je voudrais savoir quelle est la différence entre l'adaptation d'un roman, ce que vous avez aussi fait, Moravia par exemple, et puis un fait divers. Dans un livre d'entretien que je recommande, qui vient de sortir chez Independencia, le cinéma de Cédric Kahn, les entretiens avec Quentin Mével, où vous parlez successivement de tous vos films de façon très précise, vous dites que pour un fait divers, il faut trouver une structure.
Ouais, c'est une matière, je dis que c'est comme de la sculpture en fait, c'est-à-dire que la matière, il faut réduire en fait, c'est-à-dire que la matière est plus importante que l'espace qu'on aura dans le film, donc il faut la sculpter pour lui donner une forme en fait, alors que quand on part d'un roman, la forme est déjà là, à la limite il faut presque investir le roman et lui, des fois il y a un défaut d'incarnation dans un roman, c'est-à-dire que la pensée du personnage est très bien relatée, mais il manque un peu le corps, donc voilà, je dirais que c'est presque le travail inverse.
Alors là, il faut dire que vous êtes parti aussi d'un livre. En fait, il y avait deux livres. Il s'agit de l'histoire de Xavier Fortin et de ses deux fils qui a été publié, qui s'appelait « Hors système, 11 ans sous l'étoile de la liberté », chez Jean-Claude Lattès. Donc, cet homme qui a été condamné à 20 mois. Alors, les formules juridiques sont bizarres. C'est soustraction de mineurs par ascendant.
Voilà. Ou non-présentation d'enfants pendant 11 années.
Ça, oui, préfère soustraction de mineurs par ascendant.
Vous
ascendant
ça
Lyon.
Plus joli.
Ascendant.
En tout cas, parce que souvent, le fait divers, quand il a été relaté par la presse, les journalistes aiment bien faire des raccourcis. On a parlé d'enlèvement, de kidnapping. C'est complètement inapproprié, parce qu'un parent ne peut pas kidnapper ses propres enfants. Donc effectivement, c'est non-présentation ou soustraction d'enfants dont il a été...
Donc 2 ans de prison, il en avait fait 22 mois, donc avec sursis.
En fait, il a fait que 2 mois, en fait.
Il a fait 2 mois, voilà.
2 ans de prison, dont 2 mois ferme.
Voilà. Donc, vous êtes parti de ce livre. Vous auriez pu aussi partir d'un autre livre de Catherine Martin chez Calman Levy, « Au nom de mes fils ». Alors, c'est le point de vue de la mère, mais bien sûr, la mère est très fortement présente dans le film, même si en temps en durée, ce n'est pas très, très long, mais en force émotionnelle, c'est extrêmement fort, puisque elle ouvre et elle clôt le film.
Je pense que les climax du film sont les scènes avec la mère. Elle est absente, c'est la structure du récit, c'est l'absence de cette mère, c'est quasiment le sujet du film en fait, en creux. Et donc en fait, effectivement les apparitions et les réapparitions de la mère, les surgissements de la mère dans l'histoire pour moi sont les climax.
Alors pourquoi vous avez choisi justement le livre du père et des enfants ?
Parce que, alors c'est aussi des livres plaidoyers, hein, parce que c'était des livres qui ont été écrits dans les temps des procès, donc chacun défendait sa cause. Donc ça, moi, je ne me suis pas du tout intéressé à cette matière-là, la matière où chacun est à charge et à décharge. Par contre, ce qui m'intéressait, une des choses que je trouve fascinante dans le fait divers, je pense qui a fasciné les gens, c'est la disparition. C'est-à-dire comment on disparaît dans un pays comme la France pendant 11 années, et quel système on met en place pour passer entre les mailles du filet. Et cette chose-là n'était racontée effectivement que dans le récit du père et des garçons, la cavale de l'intérieur en fait.
Alors est-ce que les deux livres, je vous avoue que je ne les ai pas lus, est-ce que les deux livres ont pas le même point de vue évidemment, ça ne peut pas être, mais par exemple dans la relation des faits, est-ce que le livre du père parle de la mère de la même façon que la mère parle de ses scènes de rupture au début et de ses scènes de retour à la fin?
Non, évidemment non. C'est bien pour ça qu'il y a un fossé incomblable entre ce père et cette mère, c'est qu'ils ont absolument, ils ne sont pas dans la même réalité. Et Jacques, dans le fond, c'est l'histoire de tous les divorces. C'est-à-dire que chacun raconte son histoire. On n'est plus dans la même histoire. Quand l'amour marche, on est dans la même histoire. Et puis un jour, on n'est plus dans la même histoire. Et là, le malentendu devient terrible. Non, le seul point de rencontre entre les deux livres, c'est les retrouvailles entre les garçons et la mère. Ça, ils l'ont raconté à peu près de la même manière, même si les points de vue étaient complètement différents. Et Et c'était très émouvant, déjà raconté, quoi. On voyait que là, il y avait une... Et d'ailleurs, j'ai pas voulu ni réinventer, ni transformer la scène. Elle est assez fidèle à ce que j'ai lu.
Alors, ce qui ressort du film, tout de même, c'est que c'est avant... Enfin, pas avant tout, mais c'est tout de même l'histoire des enfants, en fait. La charge émotionnelle du film, c'est l'histoire des enfants.
Bien sûr, mais c'est parce que c'est l'histoire qui est bouleversante. C'est-à-dire que les parents... Je passe par le point de vue des parents, parce que d'abord je veux donner sa chance à chacun et je veux qu'on comprenne le contexte de l'histoire. C'est une guerre terrible qui se livre, mais évidemment le point de vue qui est bouleversant, c'est le dilemme, le fameux dilemme des enfants. C'est-à-dire que d'un côté ils ont cet amour, et cette, pas que pour leur père d'ailleurs, ils ont aussi un amour pour le mode de vie, pour cette vie-là. Dehors, avec les animaux, l'école à la maison, enfin voilà, ils sont nés comme ça, donc finalement c'est leur vie de toujours. Il y a pas de choix dans le fond. Ils ont beaucoup défendu leur père sur la question du choix, que ça avait été leur choix, mais c'est un choix naturel. Et puis de l'autre côté, voilà, ce manque, ce trou affectif sur lequel moi j'insiste, sur lequel eux ils ont jamais tellement parlé d'ailleurs dans leurs écrits, hein, parce que il y a une sorte d'interdit, et puis voilà. Et puis ce livre dont je suis parti a été écrit dans le temps des procès, donc il fallait absolument qu'ils disent qu'ils avaient été heureux. Enfin voilà, ça c'était la priorité. Donc voilà, donc moi ce qui m'a vraiment passionné, c'est ce dilemme des garçons.
Là, vous venez de parler justement de donner sa chance à chaque personnage. C'est ça qui me frappe dans le film, c'est ce côté renoirien. On sait la fameuse phrase de la règle du jeu que je ne partage pas, où Renoir disait « ce qui est terrible dans la vie, c'est que chacun a ses raisons », parce que bon, les raisons de Pol Pot et d'Hitler, on n'est pas obligé tout de même de les comprendre.
Oui, mais c'est la force du cinéma. Oui. La force du cinéma fait qu'on peut s'attacher pendant 2 heures au pire des personnages.
Mais dans votre film, effectivement, ça joue très fort qu'effectivement, il n'y ait pas de prise de position. C'est-à-dire que vous avez, à l'égard de ce triangle, les enfants, le père, la mère, une attitude où finalement vous comprenez chacun et que chacun a sa chance.
Oui, mais je dis clairement que les victimes de cette histoire sont les enfants et qu'ils ont parlé d'un choix, mais je trouve que ce choix ne devrait pas exister, en fait, que c'est un choix extrêmement cruel. Donc quand même, ma position émotionnelle, en tout cas affective, instinctive, elle est clairement de ce côté-là.
Alors, le film aussi est évidemment elliptique, au bon sens du mot, puisque vous auriez pu, ça aurait été fastidieux, faire année par année, vous avez 12 ans, à moins de tourner comme Boyhood.
J'ai pensé en voyant Boyhood. Le sujet y était.
Voilà, dans la continuité, prendre le même garçon et le tourner pendant 12 ans, votre film, enfin, ce n'est pas toujours les conditions de tournage idéales. Là, vous avez deux petits garçons, 8 ans et 9 ans, et puis il y a une ellipse, d'ailleurs avec la coupe des cheveux, si j'ai bien vu le film, avec la coupe des cheveux. Deux fois, il y a deux coupes de cheveux dans le film. La deuxième coupe de cheveux, on saute à l'adolescence, où ils ont une vingtaine d'années. Et entre-temps, on passe de l'admiration dévote pour leur père à la rébellion qui arrive très souvent à l'adolescence, pas seulement dans une Robinsonnade, comme c'est le cas dans votre film.
Oui, de toute façon, le film fonctionne vraiment sur deux énergies. Il y a le côté extraordinaire, exceptionnel du contexte, et il y a aussi des choses très universelles, très presque banales. C'est un divorce où on se dispute la garde des enfants, c'est une crise d'adolescence. C'est étonnant de voir comment, finalement, la normalité vient se réinscrire dans ce contexte hors norme.
Mais cette décision de l'ellipse,
c'est une décision... À un moment, c'est marrant, parce que quand on fait du cinéma, on est aussi face à des questions très concrètes. Il faut raconter cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rébellion des enfants. S'il n'y a pas cette rébellion des enfants, je m'embarque pas dans le film. C'est qu'à un moment, voilà, leur point de vue change. Et c'est ce changement de point de vue qui m'intéresse. Et donc, se pose très vite la question de deux paires d'acteurs. Alors, si on raconte les 11 années, il en faut 3. Donc, ça, visuellement, cinématographiquement, c'est pas possible. Ça marche pas. Donc, voilà, l'ellipse vient naturellement. Donc, c'est les deux temps forts. C'est le début, le temps de l'osmose, et la fin, le temps de la rébellion. Effectivement, c'est venu progressivement, cette prise de position des garçons. Elle est venue par étapes. Voilà, l'artifice du cinéma, c'est qu'elle arrive brutalement. Et elle arrive par les cheveux, qui sont effectivement... les coupes de cheveux qui sont quelque chose de symboliquement très fort dans le film. Parce que ça marque vraiment l'idéologie, en fait. C'est le premier acte que fait la mère quand elle prend ses garçons avec elle, c'est de leur couper les cheveux pour les intégrer, les amener à l'école, en ville... Et c'est le premier acte de rébellion dans le film des garçons, c'est de se couper les cheveux.
Alors le choix de ces enfants qui sont les deux couples d'enfants, d'abord le personnage qui s'appelle Tsali et Okiyesa, qui sont joués par deux jeunes enfants, et puis ensuite les ados, qui sont également par deux acteurs évidemment différents. Comment s'est opéré? Est-ce que vous avez recherché une ressemblance physique?
Bien sûr.
Et de tempérament? Parce que, alors il y en a un des deux, alors je ne sais pas lequel des deux dans les ados qui est celui qui est vraiment violent, qui s'en prend à son père, c'est David...
Non, David Gassou, c'est l'enfant petit, et Jules Després, c'est l'adolescent. Romain Després, c'est l'adolescent.
Voilà, Romain Després, voilà.
Exactement.
Alors, comment vous avez choisi déjà les tout-petits vous aviez déjà dirigé, évidemment, un enfant dans l'enfant.
J'ai déjà souvent dirigé...
Dans l'avion,
Oui, et puis dans Une vie meilleure, il y avait un personnage d'enfant très important. J'ai travaillé beaucoup avec des adolescents sur mes premiers films. Donc ça, c'est plutôt un endroit où je me sens assez à l'aise. Après, effectivement, il y avait cette contrainte de ressemblance. Et pas seulement physique, on voulait aussi des ressemblances de tempérament. C'était très important que l'aîné porte le conflit et porte la colère et la rébellion en lui et que le cadet soit plus pacificateur, plus réconciliateur. Il fallait vraiment que ce binôme fonctionne comme ça. C'est ça qu'on faisait. Pour moi, c'est le personnage principal du film, ce binôme, en fait. Ce qui est déjà... Et c'est un binôme qui devient un quatuor, puisqu'en plus, je change d'acteur. Donc voilà, c'est ce carré qui est le protagoniste. Donc voilà, donc c'était tout reposait absolument sur eux. Après, y a un travail de casting qui est très important. Le choix fait beaucoup. Hein. Comme on dit, c'est dur de faire avancer un âne qui n'a pas faim.
Mais on dit toujours que les enfants sont toujours géniaux, c'est pas évident.
C'est totalement faux, même. La plupart des enfants sont gênants dans le jeu parce qu'ils sont dans l'imitation, ils sont dans l'imitation du jeu. C'est-à-dire que c'est pas si spontané, en fait, de convoquer ses émotions et sa sincérité, en fait. Donc, des enfants sincères et qui arrivent à se connecter à leur intime, c'est assez rare. Donc c'est le choix. Et puis après, c'est aussi une façon de tourner, je pense, qui facilite la spontanéité et le naturel.
Est-ce qu'ils apportent des choses ou est-ce que tout est écrit? Parce que vous avez un cinéma très physique qui tient vraiment sur l'instant, sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des modifications ou
je m'appuie beaucoup sur eux, sur leur tempérament. J'ai choisi autant pour leur aptitude à jouer que pour leur tempérament. Mais effectivement, je cherche des connexions entre leur tempérament et les personnages. Donc après, je m'appuie beaucoup sur eux et ça me permet aussi de leur laisser beaucoup de liberté dans le jeu. Donc, avec les enfants, par exemple, ils ne lisaient pas le scénario, je leur donnais leur phrase de dialogue au dernier moment. Enfin, voilà, je privilégiais vraiment leur vivacité, leur spontanéité. Et ça marche très bien. Enfin, dans le cas de ces deux enfants qui s'entendaient très bien, j'aurais pu quasiment les filmer 24 heures sur 24.
Alors Cédric Kahn, ce qui me semble assez frappant quand on voit l'ensemble de vos films, c'est que le thème de l'exclusion revient assez régulièrement. Évidemment, Roberto Succo, c'est l'exemple le plus frappant, mais même les adolescents de Barre des Rails, le personnage de Feu Rouge qui quitte la société de toute façon.
Mais c'est presque de l'auto-exclusion. Hein. Je dirais pas que c'est de l'exclusion par punition, c'est plutôt des personnages qui cherchent leur place, en fait, qui se posent la question de leur place. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une angoisse du chemin tout tracé, en fait, de se dire voilà la route sur laquelle je suis, et est-ce que je m'autorise à une sortie de route ou un changement de cap ?
Une vie meilleure aussi, c'est quelqu'un qui veut justement changer de vie.
Il veut changer de vie, mais finalement, il se rend compte que ce projet de vie n'est pas le bon non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse de ce film-là. Il est dans une sorte de rêve de conformisme. Et ce conformisme-là devient un piège. Alors après, ça prend la forme du surendettement, etc. etc. Mais dans le fond, je pense que les personnages sont plutôt traversés par des questions philosophiques, de trouver un sens, en fait, de trouver un sens à leur vie et de se réapproprier leurs propres désirs. Je crois que la préoccupation principale de mes personnages, c'est de trouver... Alors, je ne parle pas de Roberto Succo, qui est un assassin. Donc, lui, il a affaire avec ses pulsions. Donc, je ne sais pas si on peut parler de désir, mais dans le cas de personnages plus normaux, plus intégrés, je crois que la question du désir et de la place est primordiale.
Parfois, même assez souvent, des personnages en fuite. Ce qui va avec votre style, avec votre façon de filmer, qui est une façon très physique et très, il y a des accélérations, ne serait-ce que la première séquence assez extraordinaire dans ce film avec Céline Salette qui qui prend ses enfants et qui une caméra qui c'est pas du, là c'est justifié la caméra qui tremble et qui suit le dos des personnages, c'est une figure de style du cinéma contemporain qui peut être exaspérante, mais là elle est complètement justifiée. Donc vous aimez tout de même cette le côté physique de la mise en scène.
Oui, si c'est induit par le récit, ça me paraît totalement naturel. Pour moi vraiment la caméra et le récit et l'acteur doivent faire corps en fait. Pour moi, c'est le geste ultime, celui que je cherche, je ne le trouve pas toujours, hein, mais c'est vraiment de mettre au diapason la caméra, l'acteur et le personnage. Et quand j'ai trouvé cette harmonie parfaite, j'ai le sentiment, c'est comme le coup au tennis, quoi, quand ça part, j'ai un sentiment de plénitude et d'avoir réussi le geste. Et puis avoir ce geste se répète tous les jours, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils voient les films en 2 heures, mais nous, c'est très fastidieux de faire un film. Ça dure 2 mois, le tournage, on fait ça plan par plan. C'est comme... Et puis après, ça se couture comme ça. Mais voilà, donc on répète ce geste à l'infini. Et quand ce geste, cette unisson est trouvée comme ça, plan après plan, ben là, tout à coup, le film a cette énergie-là, ce mouvement-là. Mais c'est compliqué de théoriser la façon dont on filme, hein, parce que je suis convaincu qu'on filme aussi comme on est, quoi.
Et vous êtes... Vous n'êtes pas en fuite, mais vous êtes en action.
Oui, en tout cas, j'ai une façon plutôt instinctive, émotionnelle de comprendre les choses et le monde.
Cette scène, par exemple, du début, où on suit cette femme qui emmène ses 3 gosses avec elle, parce qu'en fait, il y en a un qui va rester, mais ils sont 3. Yves Cap tenait la caméra ou c'était le cadreur ?
Il n'y a pas de cadreur. Le cadreur, c'était lui.
Enfin, donc, il a fait le cadre et la photo.
Et moi. En fait, tout le film a été tourné à 2 caméras, ce qui était déjà une nouveauté pour moi. Et il en avait une et j'avais l'autre. Et l'autre chose un peu particulière, parce qu'en général, l'opérateur a la caméra et le metteur en scène est sur son dos à lui dire « fais ci, fais ça ». Et là, il y avait une autonomie des caméras. C'est-à-dire que lui avait une forme de liberté avec sa caméra et moi, j'avais aussi une liberté avec la mienne. Donc ça, voilà, ça, c'était déjà un dispositif de tournage un peu original.
Mais Yves Cap... C'est une photographie extrêmement diversifiée parce que les scènes de Robinsonade, la nature, il y a une sorte d'exaltation. D'ailleurs, le film a des mouvements de sérénité, de relatif harmonie avec le cosmos. Et puis d'autre part, au contraire, des ruptures et un côté un peu chaotique.
C'est comme ça que je ressens leur vie, en fait. Je pense que ces 11 années de parenthèse ont été comme ça. Je pense qu'il y a eu vraiment des moments de plénitude avec leur père, avec cette osmose, cette fusion avec la nature. Je pense qu'ils ont ressenti des moments que peuvent peut-être pas ressentir des enfants qui ont une éducation plus conforme entre l'école, hein, et une vie plus régularisée. Et puis, je pense qu'il y a eu des moments de chaos, parce que cette utopie, cette fiction que leur propose leur père, elle est aussi constamment à l'épreuve du réel. Donc, c'est la police qui arrive, c'est la mère qui les cherche, c'est la fuite qu'il faut prendre en pleine nuit pour changer d'endroit, etc. etc. Donc, je pense qu'effectivement, ils étaient tout le temps entre chaos et plénitude.
Et Yves Cap, quand vous préparez un film, comment il y a des metteurs en scène qui regardent des photos, il y en a qui... On regarde des tableaux, il y en a qui parlent de chromatisme. Quel genre de discussion vous avez eu pour établir la palette visuelle ?
Il y a eu un énorme travail de documentation qui a été fait au préalable, qui a servi à tout le monde, en fait, à la costumière, au décorateur et aux discussions que j'ai pu avoir avec l'opérateur. Beaucoup de photos, d'archives, de gens qui vivent comme ça, de façon communautaire, mais aux États-Unis, en Australie, enfin voilà, on a beaucoup regardé de documents avec des enfants, tout ça, et en fait, quand même, le style du film s'est créé à partir de cette documentation. Et puis, c'est la même chose, on s'est aussi laissé guider par le récit, c'est-à-dire que les scènes d'hiver, les scènes plus réalistes, ben, elles ont un aspect plus rugueux, et puis la caméra se pose moins, et puis dès qu'il y a l'été, qui est quand même... Parce que ça suit les saisons aussi, je pense que le bonheur et le... Et la rudesse, c'est aussi au rythme des saisons. C'est-à-dire qu'avec ce mode de vie-là, évidemment, déjà l'été, c'est très différent de l'hiver. Et puis, on a eu cette patience d'attendre la lumière. Je pense que le dispositif de tournage induit beaucoup de choses. Donc, on était très léger, on avait peu de matériel, donc on avait aussi cette possibilité économique d'attendre. Donc, pour un opérateur, je pense que c'est assez formidable d'avoir ce temps-là. On n'était pas dans le contrôle, en fait. On était vraiment dans une forme de fusion avec la réalité.
Je parlais de personnages en fuite. Bon, encore une fois, on revient à Roberto Succo, mais même le personnage du professeur dans L'ennui, d'une certaine façon, c'était une fuite. Dans Feu rouge, Darroussin prenait la route, voilà, et s'en allait. Même l'enfant dans l'avion, d'une certaine façon. Il y a le nouveau départ dans Une vie meilleure, ou Les regrets. Vous ressentez ça comme quelque chose?
Oui, je dirais plus que ça, que si je devais faire un point, c'est compliqué hein, parce de tisser des liens entre les films, mais je dirais plus que c'est des personnages qui ont un problème avec la réalité. C'est plus la fuite du réel que la fuite physique de l'endroit où ils sont.
Et ça, c'est un rapport avec vous?
Je sais pas, ouais, bah, c'est un rapport avec le cinéma en tout cas, clairement. Clairement, le cinéma est une fiction qui permet d'échapper au réel et qui en même temps nous y renvoie parce qu'il est sans arrêt, ne fait que se nourrir de ce réel. Mais je suis convaincu qu'on a un grand grand besoin de fiction, quelle que soit sa place et sa vie, que ce soit dans les livres, dans le cinéma, dans l'alcool, dans la passion, dans l'obsession au travail. Je pense que tout un chacun, on a besoin de fuir la réalité par l'obsession.
Mais aussi votre côté autodidacte, vous êtes autodidacte, il y a beaucoup de grands cinéastes d'ailleurs qui sont autodidactes, au fond c'est des gens qui n'ont pas connu des carcans, qui n'ont pas connu des cases dans lesquelles il faut être, donc ça donne une certaine liberté, mais en même temps aussi probablement un problème d'identité.
C'est les deux. C'est
d'insertion dans la société.
Moi j'ai toujours considéré que c'était et ma chance et mon handicap, ça j'en suis intimement convaincu. Une chance dans le sens où j'ai une forme de liberté, effectivement, je fais pas partie d'une... J'ai pas dû m'émanciper d'un maître ou d'une école ou d'une tendance, etc. J'ai toujours pu faire mon chemin seul. Et c'est un handicap dans le sens où, ouais, il peut y avoir un problème de légitimité. Mais c'est comme ça. De toute façon, on doit faire avec ce qu'on est. Et voilà, je travaille sur ça, en fait. Je travaille sur cet instrument-là.
Mais en même temps, vous dites, bon, il y a eu tout de même un maître, c'est Piala, parce qu'il me semble tout de même que votre cinéma, si on devait le faire appartenir à une lignée, il y a cette façon de se coltiner avec le réel, de se coltiner avec les acteurs, de rechercher une sorte de vérité de l'instant, d'un rapport au réel très, très, très fort.
Mais alors, Piala, c'est un maître, mais c'est pas du tout un éducateur. Hein. C'était pas du tout quelqu'un qui était dans la transmission. Non, parce que, je sais pas si les gens le savent, mais j'ai aussi eu la chance de travailler avec lui. J'ai démarré sur un film comme stagiaire avec lui, puis je l'ai pas mal fréquenté, connu après. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui était... Voilà, effectivement, c'était un modèle. J'avais une admiration immense pour lui, et ses films sont très importants pour moi. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui était
qui
dans
transmet.
La transmission. Non, pas du tout. Il avait pas du tout envie d'être à cette place-là.
Alors maintenant, Cédric Kahn, on a parlé du choix des enfants, évidemment, le choix des parents est particulièrement heureux parce que je trouve que Mathieu Kassovitz n'a rarement été aussi fort. Il vit son rôle de bête traquée avec une intensité absolument incroyable. Et Céline Sallette, qui a très peu de scènes, aussi s'impose complètement dans un registre d'ailleurs très différent, parce que celui de Kassovitz est tellement déterminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kassovitz, en 10 ans, ne vieillit pas et ça gêne pas, parce qu'il ne bouge pas. Alors qu'elle, elle est transformée physiquement même, entre les premières scènes et les dernières scènes.
Oui, je pense aussi que ça correspond au récit. C'est-à-dire que je pense qu'une des particularités de ce fait divers, c'est que tout ça n'arriverait pas si lui était capable de bouger. Je pense qu'il est inamovible. C'est-à-dire qu'il est le même quand il rencontre cette femme et qu'ils ont le projet de faire ses enfants comme ça, hors système. Et il est le même quand ses fils sont en crise d'adolescence. Et il est encore le même aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, Et d'ailleurs, c'est ce qui force quelque part le respect pour lui. C'est son ultra-cohérence, quoi. Sa conviction. Voilà, c'est quelqu'un qui est réellement habité par une conviction. Elle, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui a accepté... C'est une femme qui bouge, c'est une femme qui est sous influence. C'est-à-dire qu'elle a accepté ce mode de vie, puis ce mode de vie ne lui convient pas. Et on voit qu'effectivement, on voit la transformation physique. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de... C'est une autre femme. Quand elle arrive à la fin, elle est... C'est une femme qui a quitté cette vie-là, clairement.
Alors Kassovitz, évidemment, est metteur en scène. Quand on dirige un metteur en scène qui est un acteur aussi, comment ça se passe et pourquoi le choix au départ
fois,
de,
parce que
le choix de Kassovitz
Guillaume Canet, Valéria Brunité-Deschi, Yvan Attal, je travaille avec beaucoup d'acteurs metteurs en scène. Mais la particularité de Mathieu Kassovitz, c'est qu'il est metteur en scène beaucoup plus fondamentalement qu'il n'est acteur. Lui ne se considère pas comme acteur.
Mais comment s'est fait le choix? Pourquoi vous avez pensé à lui
Ah, j'ai pensé très tôt à lui, d'abord parce que j'ai toujours trouvé que c'était un comédien absolument prodigieux, un peu hors norme dans le cinéma français. Et puis, de ce que je connais de lui, je le connaissais pas personnellement, je savais que cette radicalité-là allait lui parler et qu'elle allait aussi parler à l'écran, quoi, que tout à coup on allait l'identifier facilement au personnage.
Et donc, c'était votre premier choix.
C'était mon premier choix, mais j'ai mis beaucoup de temps à lui proposer. Je lui ai proposé assez tard.
Et c'est quel genre d'acteur avec qui travailler? Est-ce qu'il a besoin de beaucoup de préparation? Est-ce que...
Non, il est très, très instinctif, il est très habité par son personnage, il est très connecté au personnage. Donc, non, non, lui, il faut quasiment travailler comme avec les enfants, il faut travailler très, très vite. Moi, je trouvais que souvent, au bout de 2-3 prises, il était plus tellement dedans, qu'il était déconcentré. Donc c'est vraiment c'est le genre d'acteur que j'adore, c'est le genre d'acteur qui est très bon au contact avec la scène, en fait. Donc, comme moi, je déteste répéter, j'ai beaucoup de superstitions à propos des répétitions, et que je crois vraiment que le cinéma, c'est l'art de l'instant. Il est, en fait, il est très adapté à ma façon de tourner. Ouais.
Vous ne croyez pas aux répétitions, ni sans doute à 12, 20, 30, 40 prises.
Non plus.
C'est ouais. Ça, donc ouais. ça...
Oui, je pense que quand une scène fonctionne bien, on peut l'avoir au bout de 2-3 prises. Ouais.
Oui, parce que ce que vous recherchez, justement, c'est cette spontanéité.
Voilà, et que je trouve que des fois, en perfectionnant les choses, c'est-à-dire avec des prises plus précises, on va réparer tel et tel détail de texte, on perd beaucoup de l'essentiel, en fait. C'est-à-dire que, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, ça, j'y crois beaucoup, en fait. J'aime bien cette fragilité des premières prises.
Et ça convient d'autant mieux que probablement les enfants aussi.
Pour les enfants, c'est génial, ils s'usent très vite. Si on leur fait faire 20 fois un truc. Alors, après, pour une scène précise, par exemple les scènes de retrouvailles à la fin, sans en détailler le contenu, je peux vraiment aller chercher à user les acteurs parce que je sens qu'il y a quelque chose dans l'usure de l'acteur qui va apporter quelque chose. Mais c'est pas un principe chez moi. Je crois pas au fait qu'au bout de 20 prises, l'acteur serait vaincu, en fait. Je ne crois pas que c'est un duel entre le metteur en scène et l'acteur et qu'il faut vaincre l'acteur.
Et Kassovitz n'avait rien à dire sur le dialogue, il n'y a pas eu de...
Il avait sûrement plein de choses à dire, mais je ne l'ai pas laissé dire.
Et Céline Sallette, alors qu'on voit beaucoup ces temps-ci, qui est une très grande comédienne, mais là, elle a dû aller chercher très loin, parce que c'est vraiment une violence des émotions qui est extrêmement forte.
J'ai lu à droite à gauche, c'est marrant, parce qu'on finalement, on se parle plus à travers les interviews qu'on se parle en direct sur les plateaux, ça c'est quand même étonnant. Et j'ai lu dans quelques interviews qu'elle dit que c'est une des choses les plus difficiles qu'elle ait eu à faire comme actrice. Et c'est vrai que c'est un challenge en soi, ce rôle, quoi. Les scènes sont toutes en bord de rupture et elles ne sont pas nourries par d'autres scènes qui seraient plus simples ou plus ordinaires. Donc tout était sur un fil et c'est vrai qu'elle est très forte comme actrice parce qu'elle convoque ses émotions avec une forme de sincérité. C'est pas édulcoré, voilà. Il y a quelque chose de très brut dans ses émotions, et c'est vrai que moi, personnellement, je la trouve très très impressionnante dans le film.
Alors, je pensais aussi au lieu où vous avez tourné, bon, c'est les Cévennes en particulier, vous êtes né dans la Drôme, vous y avez tourné Bar des Rails, je crois.
Ouais, j'ai jamais tourné dans la Drôme, je tourne autour de la Drôme. J'ai tourné un peu au nord, le Bar des Rails, un peu au sud...
Trop de bonheur,
et un peu à l'ouest, celui-là.
Oui, là, c'est les Cévennes, mais c'est la région de votre jeunesse. Enfin, vos parents ont quitté la ville aussi pour vivre...
Oui, en fait, ouais, je ne suis pas né dans la Drôme. Je suis arrivé dans la Drôme à 7 ans, 7-8 ans.
Ils ont quitté la ville aussi pour vivre en communauté. Ouais, ouais. Donc, il y a quelque chose qui a dû... ce côté un peu pseudo-paradisiaque, on découvre que ce n'est pas vraiment le paradis.
Non, non, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que ça faisait écho, même si l'histoire n'a rien à voir avec mon histoire, je pense que... L'univers du film faisait écho à des choses que j'ai connues enfant, d'où aussi ma place d'enfant dans cette histoire. Et après, moi, j'ai plutôt que des bons souvenirs hein, de cette période. Mais je comprends que la marginalité vécue du point de vue d'un enfant, ça n'a rien à voir avec celle choisie par un adulte.
Parce que c'est un peu c'est une réflexion aussi sur l'utopie. L'utopie qui se fracasse contre la vie.
Et la réalité, c'est
toujours la réalité, oui, la vie, la réalité.
Voilà, c'est toujours le rêve, la fiction, la fameuse fiction qui nous permet de vivre à l'épreuve du réel. Et dans le fond, je crois que c'est un peu ce qui émane de tous mes films, c'est que le réel gagne toujours.
Et dans cette utopie, en tout cas dans cette Robinsonnade, on voit que on pense à la gauche française. Alors il y a les punks, mais qui s'entendent pas du tout avec avec le personnage du père et les deux enfants. Ils cohabitent, ils sont dans un même espace, mais ils peuvent pas s'entendre. Bon, on a vraiment l'impression que ça fait écho à pas mal de.
Ouais, mais c'est une des choses qui était très émouvante dans leur récit d'ailleurs, c'est qu'à un moment on comprend que dans cette utopie, la nature humaine reprend ses droits et que finalement, on se retrouve avec exactement les mêmes genres de conflits qu'il peut y avoir dans toute la société. Les prises de pouvoir, le surnombre, etc., etc. Et c'est vrai que ça pourrait être en soi une métaphore de la fin des utopies, de la chute des utopies. Mais je pense que c'est pas du tout un discours cynique chez moi. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, l'utopie, l'idéologie est toujours à l'épreuve du réel et que c'est effectivement très difficile d'atteindre un rêve collectif ou une société où finalement l'homme serait meilleur que l'homme. Mais je pense pas du tout qu'il faut abandonner le. Je pense qu'il faut la réinventer en permanence, en fait.
Et cette région, cet attachement à cette région, vous avez des raisons?
Alors là, vous parlez de la région dans laquelle j'ai tourné.
Pas toute cette région, ce midi, sud-est. Midi moins le quart. Enfin, c'est pas tout à fait le midi, midi moins le quart.
Oui. Et à chaque fois que. Il y a d'autres films que j'aurais voulu tourner par là et que j'ai dû tourner ailleurs parce qu'on me donnait de l'argent ou quoi. C'est toujours un crève-cœur. Ah ouais, je suis très attaché à ces paysages. Ouais. Cette montagne, cette rudesse. Oui, bah, c'est les paysages de mon enfance. Donc effectivement, c'est en ça que, dans le fond, je ne serai jamais un cinéaste parisien. Même si je l'ennuie, j'ai pu faire quelques films urbains, mais dans le fond, c'est pas. Finalement, c'est on le sait, hein, mais l'enfant est toujours très vivant, quoi. C'est difficile de se séparer de son enfance.
Les enfants eux-mêmes ont de la difficulté, quand ils deviennent adolescents, à accepter cette vie. On l'a dit au début, c'est la rébellion liée à l'adolescence. Mais là, il y a eu un affrontement très violent entre ces jeunes gens et le père. Parce que
moi, ce qui me touchait, en fait, mais là, je vais au-delà de leurs paroles, c'est-à-dire qu'il y a le conscient, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à leur père. Je pense que la domination de leur père devient insupportable. Et puis, je pense qu'il y a un inconscient très fort, c'est que c'est quasiment avec les arguments de leur mère qu'ils se rebellent contre leur père. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus de la proximité des bêtes, ils n'en peuvent plus de l'isolement. Ils ont envie de s'intégrer, ils ont envie de pouvoir avoir des amis, des petites copines sans mentir, etc., etc. Donc, je pense que malgré eux, ils reprennent le flambeau de leur mère.
Parce qu'au début du film, les enfants sont du côté du père parce que, justement, à cause de la proximité des bêtes, à cause de vivre dans une caravane, ils sont déjà, ils sont préparés à être un peu des marginaux. Alors que la mère dit, moi, je ne veux pas continuer à ce que mes enfants soient dans la boue.
Parce que je pense que c'est un monde enfantin, en fait. Cette utopie du père, c'est aussi un. Avec cette famille comme ça qui vit isolée, les enfants qui vont pas à l'école, donc quelque part qui n'entrent pas dans la société. C'est-à-dire que faire l'école soi-même, même si c'est tout à fait louable, il leur apprend des choses que l'école leur apprend pas, mais quelque part, les enfants ne quittent pas la famille. Donc il y a quelque chose qui ne veut pas affronter le monde. C'est comme un monde fermé. Même s'ils ont fréquenté beaucoup de gens, dans les communautés, il y avait plein d'autres gens. Donc c'est quand même un monde qui s'isole, qui ne se confronte pas à la société. Donc je crois qu'il y a quelque chose aussi de très enfantin dans le rêve du père.
Parce qu'il y a un peu la différence aussi de génération qui s'est passée en France dans beaucoup de familles. C'est-à-dire que les parents sont babacool et puis les enfants finalement ont un souci d'intégration beaucoup grand, d'être plus dans la société. Enfin, on a vu ça. Alors il y a un film de Sidney Lumet qui est un très beau film qui s'appelait À bout de course, je crois, qui était sur des anciens gauchistes qui sont traqués par la police et qui viennent avec leurs enfants qui courent dans la campagne, qui vont de village en village. Mais là, la différence, c'est que là-bas, il y a une sorte d'unité.
Oui, mais les problèmes commencent au moment où l'enfant doit partir. C'est exactement au même moment que dans mon film. C'est-à-dire qu'à un moment, se pose la question pour l'aîné, qui est joué par River Phoenix, il me semble, de faire des études. Et c'est là où commence à se fissurer la fameuse cavale familiale. Où tout allait bien. Ah, effectivement, il n'y a pas d'histoire de divorce. Et donc, je crois que la mère doit raccrocher avec ses parents pour essayer de réintégrer leur fils. Et finalement, ils doivent. Et finalement, le vrai sujet universel, comme dans Boyhood, c'est de devoir quitter ses enfants, en fait. C'est qu'à un moment, c'est une des plus grandes épreuves, je pense, pour des parents, d'accepter que ses enfants soient des adultes. C'est le sujet de Boyhood. c'est le sujet de ce film de Sidney Lumet. Et dans le fond, je pense que c'est le sujet du film du mien. C'est les scènes les plus bouleversantes avec Mathieu Kassovitz. C'est finalement quand il accepte le départ de ses fils.
Alors, ce qui est aussi, Cédric Kahn, intéressant, c'est qu'il y a très peu de retour en arrière dans votre cinéma. Et là, il y a un retour en arrière. Il y a l'évocation, d'un monde de culture des Indiens d'Amérique et qui est la rencontre entre le père et la mère dans le passé.
Ouais, j'étais pas très à l'aise avec cette idée du flashback. Et donc, je l'ai en fait un peu mis sous forme de récit, de légende familiale. Donc, c'est le père qui raconte à ses enfants comment ils ont mis au point avec leur mère ce projet de vie sauvage. Mais par contre, j'étais sûr que c'était essentiel d'avoir cette information-là.
Il y a ces tipis, enfin, il y a les tipis des Indiens, on se croirait dans un western. Enfin, ça fait un peu écho au dernier film de Arnaud Desplechin, qui était une recherche comme ça par un psychanalyste.
Oui, parce que je pense que...
d'un Indien. Parce que les Indiens reviennent.
Oui, parce que je pense que... Ben, au départ, il y a un moment, je voulais appeler le film « Au loin, les Indiens », mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est... Au départ, il y a quelque chose d'assez merveilleux dans ce projet de cet homme et de cette femme, de faire cette famille, de vivre dans des roulottes et tout ça. Sauf qu'ils n'ont pas envisagé la vie, au sens où voilà, la vie n'est pas qu'un rêve. Mais je pense que cette utopie-là, elle est assez admirable.
D'ailleurs, un des deux enfants, il a un prénom Cherokee, Tsali.
Bah, les deux. Hein. Dans la réalité, ils ont trois prénoms indiens, ils ont été... élevés selon des rites indiens. Enfin, la culture indienne est très, très importante dans leur histoire.
Il y a aussi une question que j'aurais vous poser. Il y a de la musique diégétique, comme on dit, qui appartient aux scènes. Enfin, on écoute de la techno, on écoute... mais il y a une seule musique qui est utilisée un peu en contrepoint du film. C'est, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est une variation de Chopin, sur l'acide harem La Mano, c'est-à-dire le grand air de Don Giovanni, où Don Giovanni séduit la servante, Zerline. Elle est privée de son libre arbitre. Elle est manipulée. Est-ce que c'est une référence au père vis-à-vis de ses enfants ?
Non, pas du tout. J'ai mis des mois à savoir que c'était du Mozart. Pendant tout le montage, on a cru que c'était du Chopin. Donc on disait Chopin, puis un jour au moment de...
Bah c'est du Chopin, puisque c'est l'orchestre symphonique...
Mais c'est écrit par Mozart. Donc voilà, on a découvert au moment de faire les droits et tout ça que c'était du Mozart. Donc déjà, c'est un morceau très particulier, quoi. C'est une espèce de remasterisation avant l'heure. Et c'est de la musique de film, c'est vraiment ce qui est assez rare chez moi, j'en utilise peu, mais là c'est vraiment assumé comme de la musique de film. C'est une musique qui est au-dessus des personnages et de l'histoire. Et je pense, on a essayé des choses plus ethniques, plus proches de l'univers du film, et on avait vraiment besoin de cette respiration-là, en fait. Et on avait besoin de quelque chose qui nous élève un peu au-dessus des personnages.
Et vous l'avez trouvé
Très vite, très facilement. En fait, pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est une musique qui correspond à toutes ces scènes d'osmose et de bonheur avec la nature. Et cette musique est très fluide, très légère, très mélodique. Ça s'accordait parfaitement avec les images.
Alors Cédric Kahn, Dans le livre d'entretien que vous publiez chez Independencia, là, il y a une chose qui m'intéresse, c'est en particulier, et je crois que c'est tout à fait juste sur votre propre travail, vous êtes très conscient de votre travail, quand vous dites que vous avez besoin, y compris comme spectacle, des éléments sociaux. C'est un peu en sourdine tout même, dans ce film, c'est moins important que dans Une vie meilleure ou certains de vos films. Mais il y a un rapport à la société qui est tout de même très très fort. Le social est pour vous important, sans que ce soit du tout des films à thèse. Il ne s'agit pas de films de dénonciation ou des choses comme ça. Mais...
Bah là, le mode de vie fait intrinsèquement partie du fait divers. C'est-à-dire que je ne pense pas que cette histoire, d'une part, aurait eu lieu comme ça sans l'idéologie, sans l'identité du personnage du père, qui a quand même un mode de vie très particulier. Et puis je pense aussi que ce mode de vie les a protégés. Ça, c'est une des conditions de leur cavale, c'est qu'ils ont été protégés par un monde, en fait. Un monde de gens qui vivent plutôt à la marge, qui sont très loin, à qui ça ne viendrait pas l'idée d'aller dénoncer qui que ce soit à la police. Et surtout, un monde où les gens posent assez peu de questions. Parce que moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui ont vécu avec eux pendant la cavale, et ils voyaient ce père avec ces deux garçons, et je disais, mais ça ne vous intriguait pas? Ils disaient, non, on ne posait pas de questions. Après, effectivement, je pense que les rapports sociaux induisent énormément les rapports humains et même les rapports amoureux. Ouais. Je pense qu'il y a une influence de la position sociale et de la position de l'attitude amoureuse.
Vous dites aussi la technique au sens pur est l'ennemi de la vérité et de la vie. Alors ça, c'est pas tellement ce que partageraient les metteurs en scène de Interstellar.
Je dis ça comme ça, de façon
oui,
aussi.
Oui, c'est vos propres paroles.
Oui, enfin.
Penser à ce que disait Buñuel. Buñuel disait que la technique c'est incroyablement bête et qu'en 3 heures on peut apprendre la technique. Donc vous partagerez plutôt ça. Enfin.
Bah moi, j'ai jamais ambitionné d'être un professionnel. Il faut une part de professionnalisme dans le sens où il faut une part. La compétence, c'est important, mais je n'ai jamais pensé qu'elle était un but. Souvent, on voit que les gens sont tellement contents d'être des grands professionnels.
Dans le cinéma américain contemporain, ça devient très, très important. Enfin, ouais, on voit presque plus que ça, parfois.
Pour moi, ça n'a jamais été un but. Et je dois dire même que je peux cultiver une forme d'amateurisme, c'est-à-dire au sens où j'aime bien me mettre en situation de redécouvrir, de redécouvrir les choses, au sens où je ne sais pas, j'accepte de ne pas savoir d'expérimenter, voilà.
Mais de ce point de vue, alors comment s'est organisé le tournage pour ce film? Vous préférez les structures légères, je suppose.
Ah ben,
si c'est trop cher, justement, des moments vrais, etc. Être encombré par...
Ouais, de film en film, j'essaie au maximum de faire reculer la contrainte et la lourdeur technique. Ouais. Donc ça peut passer par le nombre de gens, le matériel. Là, on a tourné sans machinerie, sans éclairage, sans maquilleuse, voilà... Les acteurs ont quelques costumes chacun, donc c'est très léger, quoi. Après, il y a beaucoup de personnages, il y a des scènes de figuration importantes. On met les moyens où il faut, mais l'idée, effectivement, c'est d'être le plus léger possible et surtout d'être le plus fluide possible. Après, là, on est dans la nature, donc c'est plus simple. C'est pas comme dans une pièce carrée où, finalement, les déplacements sont plus contraints. Mais voilà, toujours privilégier le mouvement, la fluidité. Ouais.
Et vous avez une équipe de combien, une équipe de...
On était C'est difficile de descendre en dessous de 20, hein. On essaye film après film. Et
une vingtaine.
Oui, une vingtaine. Ouais.
Et c'est un des minimums que vous avez atteint par rapport
Alors,
à
on avait deux
films.
Caméras, donc il faut quand même un minimum de gens pour transporter les matériels, les batteries, tout ça. Il faut quand même plusieurs pointeurs à chaque caméra, etc. Mais par expérience, c'est quand même difficile de descendre en dessous de 20. Mais enfin, bon, il y a des cinéastes qui tournent avec 5-6 personnes. Hein. Cavalier, il tourne quasiment tout seul. Mais j'adorerais, moi j'adorerais faire un film avec 4 personnes. C'est-à-dire que j'ai pas du tout l'impression d'être que plus il y a de monde, plus il y a de camions, plus je suis un cinéaste. Alors vraiment, je suis pas du tout dans cette démarche-là.
Alors, on vous voit aussi maintenant régulièrement comme acteur, très bon acteur d'ailleurs, mais ce rapport, alors c'est l'inverse, oui, c'est Kassovitz aussi, enfin, on passe de l'un à l'autre, mais comment vous voyez votre travail d'acteur et justement... dans vos films, le corps de l'acteur est très important. C'est très physique. C'est un peu une épreuve de vérité, le corps de l'acteur.
Alors, je ne sais pas quelle est exactement la question, mais c'est vrai qu'en jouant, je me suis rendu compte que j'avais un corps, en fait. C'est vrai que c'est un exercice assez cérébral de d'être metteur en scène sur un plateau. On doit comme ça... contrôler le corps des autres, en fait, le corps de l'opérateur, du caméraman, de celui qui est au cadre, le corps de l'acteur. Donc c'est en termes de sensations, c'était très agréable. Et après, ce film-là en particulier, je me suis posé la question à un moment de jouer le rôle du père. Pas tellement que j'avais envie de voir mon visage à l'image, parce que ça c'était plutôt dans les contraintes pour moi, mais c'était l'idée tout à coup d'être metteur en scène à l'intérieur du film, en fait. De pouvoir jouer avec ses enfants et de les embarquer dans cette histoire, parce que quelque part, c'est presque un metteur en scène, ce père, dans cette histoire. Pour moi, il organise quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, et cette fiction qui ne va pas tenir le coup à l'épreuve des années, mais voilà, c'est un metteur en scène.
Mais le corps et le mouvement des corps, c'est quelque chose qui me semble très, très, très central dans votre travail. Comme si c'était le corps et le mouvement du corps qui racontent, en fait, l'histoire.
Et pour moi, c'est le cinéma. Je trouve que c'est vraiment la chose que le cinéma peut capter. C'est la valeur ajoutée du cinéma, c'est vraiment le corps, quoi. Quand tout à coup, on a envie de voir un livre adapté au cinéma, l'ennui, c'était évidemment... C'est le corps et le mouvement. Pour moi, vraiment, c'est la définition du cinéma.
Ce qui est très frappant aussi dans ce livre d'entretien, c'est on croit entendre parler plus à un metteur en scène américain qu'à un metteur en scène français quand vous dites « je vis très mal le fait de ne pas être viable », c'est-à-dire que les films coûtent cher, ils doivent rapporter un minimum. C'est-à-dire cette conscience très finalement de votre place dans une industrie pour faire de l'art. C'est-à-dire la dichotomie entre ces deux éléments qui doivent fusionner pour arriver à survivre, à continuer à faire des films, une obligation vis-à-vis du public de trouver le public.
Oui, c'est un vrai paradoxe parce que le système français nous permet, nous protège, nous permet de nous financer même si on n'est pas rentable. Et d'une certaine façon, ça protège la création. L'originalité, le fait de ne pas être contraint à des règles économiques trop fortes. Et je pense qu'en même temps, ce n'est pas soutenable dans le sens où on doit quand même trouver cette formule qui fait que le public a envie d'être devant les films. Je pense qu'on peut pas faire un cinéma qui est totalement déconnecté de celui qui le regarde.
Alors, en même temps, ce qui vous oppose peut-être, sûrement à la majorité des films américains, c'est que vous dites très drôlement, qu'à Hollywood, on aurait choisi le point de vue de la mer, parce que là, on aurait eu un grand film à mouchoir, où les gens se seraient répandus en pleurs.
C'est évident, c'est évident, c'est évident. Je suis sûr qu'on va à Hollywood avec les deux propositions de films, il n'y a même pas photo, c'est même pas 9 producteurs sur 10, c'est 10 sur 10, c'est sûr.
Et vous avez eu, le film a circulé pas mal, et vous avez vu à l'étranger, quelles sont les réactions ?
Pas encore, hein, on commence par la France, à part Saint-Sébastien où ça s'est très très bien passé.
Vous avez eu le Grand Prix, Grand Prix du jury.
Mais dans les salles, et j'étais en Belgique hier soir, où le film a été très très bien accueilli, et bien je dirais pour l'instant que l'accueil est plus fort à l'étranger qu'en France. Les gens ne connaissent pas du tout le fait divers, donc ils reçoivent ça vraiment comme une histoire singulière, donc ils en découvrent tout à la fois, quoi. Mais même en France, hein, les débats avec les spectateurs, c'est très, très riche, très, très animé, et beaucoup peu sur le cinéma et beaucoup sur les fondamentaux de l'histoire.
Alors, il y a aussi des figures de style que, bon, j'ai évoqué le flashback, mais il y a aussi des choses que je ne crois pas avoir vues très souvent dans votre cinéma. C'est par exemple les deux lettres que Paco, puisque c'est le nom du personnage, du père, écrit à sa femme.
C'est très important pour moi d'avoir ces lettres. Je ne les ai pas du tout retravaillées. C'est vraiment, elles sont très, très fidèles aux originaux. Et pour moi, elles racontent exactement le personnage et l'état d'esprit dans lequel il est. C'est-à-dire une espèce d'ultra-précision, une grande connaissance des rouages judiciaires, une grande maîtrise du langage. Pour moi, ça compensait tous ces moments où ce personnage était assez mystérieux, en fait.
Merci beaucoup, Cédric Kahn. Donc, je rappelle le titre de votre film... Vie sauvage sur les écrans depuis mercredi dernier et la lecture du cinéma de Cédric Kahn, entretien avec Quentin Mével aux éditions Independencia. Et dans quelques secondes, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est un numéro de revue, ou plutôt un livre, chez Cinémaction, une série remarquable de livres sur le cinéma, consacré à King Vidor, Odyssée des Inconnus, dirigé par Jean-Marie Lecomte et Gilles Ménégaldo. J'ai demandé à Jean-Loup Bourget, qui est l'auteur de nombreux livres, en particulier sur le cinéma américain, les deux derniers étant sur Cécile B2000 et Fritz Lang, et qui a préfacé ce livre, de nous parler donc de King Vidor et de cet ouvrage qui est un ouvrage collectif et sur un cinéaste à la fois très connu, son nom évoque beaucoup de choses aux cinéphiles, mais en même temps sur lequel il n'y avait rien en français, ce qui est assez étonnant. King Vidor, texan d'origine, mais hongrois aussi, pas né en Hongrie, mais d'origine hongroise, à la fois indépendant et en même temps dans le système. Comment vous le voyez, Jean-Luc Bourget ?
Mais c'est vrai que c'est un personnage assez complexe, dont l'importance d'abord historique est absolument indéniable. Il a une des plus longues carrières hollywoodiennes, ou en tout cas cinématographique, puisqu'il commence pendant la Première Guerre mondiale. Et après sa retraite d'Hollywood, son dernier film à Hollywood, c'est Salomon et la reine de Saba. Mais il continue à faire du... Il a beaucoup de projets qu'il n'arrive pas à réaliser, mais il fait aussi du cinéma expérimental. Donc il est actif pratiquement jusqu'à sa mort en 1982. Et il a réalisé un grand nombre de films, dont certains figurent dans toutes les histoires du cinéma. Notamment des chefs-d'œuvre, des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma muet, La Grande Parade et La Foule.
On en a parlé à l'occasion du centenaire de la guerre de 14,
bien
parce
entendu,
que c'est un des grands classiques sur la guerre de 14.
Sur la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale, mais en même temps, il souffre un petit peu de ça, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même qu'un petit nombre de spectateurs qui sont vraiment intéressés par le cinéma muet, alors qui sont peut-être plus des films de Vidor qui sont peut-être plus familiers, notamment au public français cinéphile, sont des films plus tardifs, comme Duel au soleil ou encore Le Rebelle. Je pense que ce sont deux de ses films les plus connus, donc qui datent des années 40, après la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, c'est une œuvre extrêmement riche, abondante, et comme vous l'avez dit, une œuvre complexe, parce qu'elle fait alterner ou elle mélange des projets vraiment très personnels. Vidor s'est très vite vu et en tout cas voulu comme un auteur de films, et puis des projets qui correspondent aux standards des grands studios hollywoodiens. Il a longtemps travaillé pour la MGM, avec laquelle il a fini par rompre, mais enfin il a travaillé à la fois à l'intérieur des studios, à l'intérieur du système, et en même temps en imposant souvent ses projets, ses propres vues, et en arrivant aussi à transformer des projets qui peuvent lui paraître tout à fait étrangers à l'origine en des films très personnels.
Alors, il me semble tout de même qu'il y a deux pôles dans son travail, d'ailleurs qui sont chronologiquement séparés. C'est d'une part ces films muets dont vous parliez, La Grande Parade, et en particulier La Foule, qui va avoir une grande influence sur le néoréalisme italien, la vie quotidienne d'un couple, traité de façon assez réaliste, et puis des films beaucoup plus flamboyants après la guerre que vous citiez, comme La Furie du Désir, Ruby Gentry, ou bien Duel au Soleil. Ce réalisme assez marqué, comment vous le retrouvez dans d'autres films qui me paraissent beaucoup plus... romantique et beaucoup plus exalté.
Je crois que vous avez raison. Il y a une évolution. Il y a le temps du muet d'abord, où il développe son esthétique et sa théorie, qui est celle du muet comme une musique silencieuse, dans le sens où, même si les films muets étaient évidemment accompagnés de musique, mais où, à ses yeux, ce qui compte avant tout dans le cinéma muet, c'est la maîtrise d'un certain rythme qui s'apparente absolument à un rythme musical. Il fait jouer ses acteurs avec un accompagnement musical très rythmé, il calcule au métronome, à la seconde près, comme s'il s'agissait d'une partition musicale. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect réaliste qui préfigure le néo-réalisme. Dans La Foule, c'est très net, ou bien dans un film beaucoup moins connu, mais intéressant, du début du parlant, qui s'appelle Street Scene, où il y a des scènes vraiment tournées en extérieur réel, et qui ont été d'ailleurs admirées par par les cinéastes italiens néo-réalistes de l'après-guerre. Mais il y a aussi, dès cette époque, une très bonne connaissance du cinéma européen, du cinéma allemand notamment, et de l'expressionnisme. Donc il y a déjà parfois, à côté de séquences tout à fait réalistes, montrant un quotidien assez banal, il y a aussi des séquences, des morceaux de bravoure, y compris dans des films comme La Foule. Mais c'est vrai que... pour parler un petit peu vulgairement, on va dire, dans les années 40, on sent que Vidor se lâche d'une certaine façon et qu'il invente une nouvelle esthétique qu'on a pu qualifier de baroque, de flamboyante, avec des excès mélodramatiques, romantiques, alors, qui culminent sans doute avec Duel au soleil, qui est une espèce de sur-western avec un fondement romantique et tragique très fort, où évidemment il est difficile de savoir exactement l'influence propre de Vidor et celle de Selznick, qui est le producteur et qui rêve de rééditer le succès de D'autant en emporte le vent. Mais bon, c'est un film tout de même très vidorien et effectivement un peu moins connu et peut-être plus proche de ce que Vidor souhaitait vraiment. L'autre film que vous avez cité, La Furie du désir, Ruby Gentry, avec la même actrice, la même interprète principale, qui est Jennifer Jones, qui était l'épouse de Selznick, mais Ruby Gentry, Selznick n'est pas intervenu, contrairement à ce qu'il avait fait sur Duel au soleil.
Alors, dans cet ouvrage collectif qui parle vraiment de tous les aspects de Vidor, vous avez contribué, outre la préface, par un texte sur Guerre et paix que vous réhabilitez, qui est un film qui a été très minoré.
Ben, je trouve que oui, c'est un film mal aimé, comme souvent, à juste titre, souvent, les adaptations cinématographiques de grands classiques de la littérature universelle ne sont pas toujours de très grands films. Mais je pense que dans le cas du Guerre et paix de Vidor, ça a été vraiment très injuste, cette réception un petit peu poli, mais pas enthousiaste. Je trouve que c'est un film absolument magnifique parce que il est très profondément fidèle d'ailleurs à l'esprit de Tolstoï, c'est-à-dire que il combine magistralement une dimension épique qui est évidemment celle du conflit historique entre Napoléon et la Russie, avec la complexité d'ailleurs de ce conflit, parce que c'est aussi l'ancien et le moderne qui s'affrontent, et puis surtout la dimension alors plus romantique, mais aussi de roman d'apprentissage de l'héroïne principale qui est Natacha et qui est vraiment magnifiquement interprétée par Audrey Hepburn, personnage auquel je pense que Vidor s'est totalement identifié.
Alors, il faut dire aussi que c'était un théoricien, il a écrit un livre de réflexion sur le cinéma en filmmaking, il a écrit une très belle autobiographie, Tree is a Tree, traduit par La Grande Parade, je crois. Et il faut dire aussi qu'il y a eu des controverses autour de Vidor parce qu'il était Christian Scientist, il était d'une religion donc protestante, mais certains de ses films, comme par exemple Notre pain quotidien, ou plus tard dans les années 30, un autre film des années 30, Le Grand Passage, un western très très violent, il y a eu par exemple Notre pain quotidien, était à la fois célébré à Moscou, célébré à Berlin, à l'époque du communisme militant et du fascisme, et il y avait ce culte un peu du héros, de l'homme fort.
Oui, et le film qui a suscité aussi de très vives critiques, notamment en France, où pourtant, en même temps, Vidor était très admiré dès les années 30 par la Revue du cinéma et ensuite par les Cahiers du cinéma, par Positif, qui lui ont l'un et l'autre consacré des numéros spéciaux. Mais c'est Le Rebelle, The Fountainhead,
d'après
Ayn Rand, qui est évidemment un auteur très, très marqué du point de vue idéologique, qui est aujourd'hui un des auteurs de chevet du Tea Party et des républicains américains les plus conservateurs. Mais c'est quand même un film magnifique parce que pour Vidor, c'est pas, le héros n'est pas du tout, comme l'avait dit Sadoul à l'époque, le héros n'est pas un fasciste, c'est un artiste qui tient à son intégrité d'artiste.
Inspiré par Frank Lloyd Wright.
Inspiré par Frank Lloyd Wright. Donc, et interprété par Gary Cooper, une des interprétations les plus mémorables de Gary Cooper.
Merci beaucoup. beaucoup, Jean-Luc Bourget. Donc, je rappelle ce volume de Cinémaction édité par Charles Corlet, dont vous avez écrit la préface, un ouvrage tout à fait passionnant, King Vidor, Odyssée des Inconnus, dirigé par Jean-Marie Lecomte et Gilles Ménégaldo. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon. Elle a été réalisée par Laetitia Coya, à la prise de son Pierre Monteil. Elle a été préparée par Sylvia Favre. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre par Martin Kénéen.